Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM, il est 18h. Très heureuse de vous retrouver pour ce journal que je présente aujourd'hui avec Axel Hoffelinck. Bonjour Axel.
Bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous. Dans les titres de l'actualité, les élections rectorales viennent de se terminer. Nous rejoindrons notre intervenante en direct de la salle académique.
Un drame a été évité dimanche lors des 15 km de Liège. Retour sur les risques d'arrêt cardiaque dans la pratique sportive.
Point climat, on accueille Abdeslam Ben Saïd pour parler des îlots de chaleur.
Les résultats du premier tour des élections rectorales sont tombés. La commission électorale les a annoncés lors d'une séance publique à la salle académique. Elia Skilacci, vous êtes sur place. Que pouvez-vous nous en dire?
Eh bien, Amélie, les résultats viennent de tomber. Anne-Sophie Nissen est réélue en pourcentage pondéré à 77,17% des voix face à Damien Ernst qui est à 13,62% des voix. Pour les chiffres, nous sommes avec le personnel enseignant à 84% des voix, le personnel scientifique 66%, le personnel administratif 84% et les étudiants 43% de taux de participation. Donc, la rectrice a exprimé quelques mots à la suite de sa réélection. Elle se dit ravie de la confiance qui lui a été réaccordée et remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont exprimé leur vote. Son projet est de continuer dans la ligne de son mandat actuel, enfin de son mandat précédent. Elle a également tenu à remercier Damien Ernst pour les débats dans une haute démocratie et un grand respect. Donc nous sommes, voilà.
Merci beaucoup, Eléa.
Toujours pour parler de ces élections rectorales, nous recevons Elisa Bruni en plateau. Avec Nora Pereira Portela, vous êtes allée interroger des étudiants sur leur vote et vous revenez vers nous pour en discuter. Bonjour Elisa.
Bonjour Axel. Après une première journée, le bilan de vote étudiant est de 28%. Une belle évolution par rapport à 2022, puisqu'au bout du deuxième jour, seulement 22% s'étaient déplacés. Les étudiants tiennent à choisir celui ou celle qui les représentera au mieux.
J'ai choisi de voter parce que je pense que c'est important en tant qu'étudiant de promouvoir nos droits et de ne pas rester statique par rapport à tout ce qui se passe.
28%, c'est un chiffre encourageant, mais il reste faible. Comment l'expliquer ?
Alors certains étudiants ne semblent pas convaincus par les propositions des candidats, d'autres s'estiment trop peu informés que pour aller voter. On constate aussi un certain désintérêt de la part des étudiants sollicités par d'autres activités.
Non, je n'ai pas voté, non. Je fais pas mal de choses à côté. Entre guillemets, la politique de l'Uliège ne m'intéresse pas tant que ça.
Quel que soit le choix des étudiants, leurs voix ne valent pourtant pas grand-chose. Koen Vanagendoren l'explique au micro de Doris Lofgen et Elodie Petitpas.
Les étudiants qui constituent la vaste majorité des membres de la communauté universitaire représentent 15%. Ça signifie concrètement que moi, en tant qu'académique, j'ai un poids qui vaut 123 fois celui d'un étudiant.
Cette comparaison est vraiment interpellante. Elisa, les étudiants sont-ils au courant de ces chiffres? Qu'en pensent-ils?
Alors, beaucoup l'ignorent, mais nous en avons informé certains. Ils ne sont pas d'accord avec cette répartition et estiment compter autant, voire plus, que le personnel académique.
On vit dans l'UNIF au même titre que les professeurs qui vivent dans l'UNIF. Et quand on voit les luttes actuellement, genre les 1200, etc., ça impacte surtout les étudiants et les recteurs peuvent se positionner en faveur ou en défaveur de ça.
D'autres étudiants rencontrés étaient d'ailleurs d'accord.
Je trouve ça un peu honteux aussi que ce soit finalement la bureaucratie de l'université qui choisisse ses propres élus. Donc finalement, c'est un peu un entre-soi, alors qu'il faut rappeler que c'est quand même les étudiants qui portent l'université.
C'est donc un sujet qui mérite réflexion d'ici les prochaines élections. Merci beaucoup Elisa pour votre intervention.
Ce dimanche, lors des 15 km de Liège, un drame a été évité de justesse. Frédéric, un étudiant âgé de seulement 25 ans, s'est effondré en pleine course. Il a été réanimé sur place par 3 autres participants. Il a ensuite été emmené au CHU de Liège, où il est toujours hospitalisé. Mais ce cas n'est malheureusement pas le seul. Abdeslam Ben Saïd et Samuel Palermo ont donc interrogé un cardiologue pour comprendre la possible hausse de ces incidents.
Un épisode spectaculaire qui relance une question. Assiste-t-on aujourd'hui à une augmentation des arrêts cardiaques chez les sportifs ? Ou à une impression liée à leur médiatisation? Réponse avec Raphaël Grédorge, médecin du sport et premier attaché au service des sports de la province de Liège.
Alors moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de morts subites ou d'arrêt cardiaque qu'avant. On en parle peut-être plus via les médias, ce qui est une très 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 bonne chose. Comme ça, ça permet aux sportifs et aux jeunes sportifs de se dire que faire un petit bilan serait intéressant.
Ces accidents restent dans tous les cas très rares. La mort subite du sportif concerne environ un cas entre 40 et 80 000 pratiquants par an, selon les données de PubMed. Pour pallier à ces événements souvent brutaux, parfois sans signe avant-coureur, il est donc important de se poser la question sur la formation et la prévention le plus rapidement possible.
à partir de, je ne sais pas, moi, 18, 19 ans, par exemple, dans certains cours, déjà dans les cours, par exemple, de médecine, les cours infirmiers, les cours de gym, les cours, les futurs profs de gym, les kinés, etc., qui sont quand même confrontés à des sportifs, déjà, eux, apprendre les gestes.
La réponse est donc nuancée. Plus de cas, peut-être pas, mais la formation et la prévention pourraient bien être les seuls moyens pour faire avancer les choses.
Cette situation nous rappelle à quel point chaque minute compte lorsqu'un cœur s'arrête. Mais à l'université, serions-nous prêts à réagir? Nathan Gillon et Titouan Van den Bosch ont été sondés des étudiants et le personnel de Liège, place du Ventoux, pour voir sur leur niveau de formation face à une urgence vitale.
Près de 30 000 étudiantes et étudiants parcourent les différents campus de l'université chaque jour. Mais si jamais l'un d'entre eux venait à avoir un arrêt cardiaque, ses camarades pourraient-ils réagir?
En secondaire, moi j'ai eu une formation comme ça, premier secours, pendant le truc de gym, etc. Mais c'est vrai que je me rappelle pas de tout déjà, puis c'est assez sommaire. Du coup, je saurais techniquement comment faire, mais je pense que même en situation en tant que telle, ce sera un peu dur quoi.
Dans ce cas, Marion n'aurait pas pu réagir. Mais heureusement, elle peut compter sur certains membres du personnel. C'est le cas de Stéphanie Masset, secrétaire au service des inscriptions et des admissions, qui a suivi une formation dispensée au sein de l'ULG en mai dernier.
La formation est courte, c'est 3 journées, il y a des manipulations, mais ça reste court. Et après, c'est propre à chacun de savoir comment réagir en cas de problème. Je trouvais important, de par ma fonction, de pouvoir guider mon équipe en cas de besoin, qui est prête s'il faut, mais c'est vrai qu'il reste la petite panique si quelque chose arrive, de se dire est-ce que je serai à la hauteur d'intervenir, et que ça devrait être obligatoire, ça rassurerait tout le monde, et parfois je pense qu'il y aurait plus de vies sauvées.
Grâce à ces formations, 12 membres du personnel du 20 août sont maintenant capables d'éviter ce genre de drame.
Le parquet de Liège durcit le ton en ce qui concerne les deals de rue. Hier, Miss Doudane et Alexandra Vilenica se sont rendues en ville pour observer l'application de ces mesures. Aujourd'hui, elles ont questionné Damien Lebout, procureur du roi de Liège, pour comprendre les raisons de cette mesure, mais aussi ses tenants et ses aboutissants.
Aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une action quotidienne de la police qui les intercepte chaque jour des dealers. On analyse rapidement le GSM, on prend la drogue, on prend l'argent, éventuellement les objets de valeur qu'il aurait sur lui, on le cite à l'audience et on passe au suivant.
Le parquet de Liège se montre ferme face aux dealers. Pour mener ses opérations contre le trafic, un accord a été conclu entre la police et le parquet. Mais des actions aussi concrètes et conséquentes nécessitent un dispositif important, ce dont la police ne dispose pas avec un manque estimé à 200 agents de police. Les quartiers principalement ciblés par cette mesure sont Saint-Lambert, Les Guillemins et Outremeuse. Mais le dispositif peut être appliqué à toutes les communes de l'arrondissement. Au niveau des citoyens, l'une des inquiétudes que nous avons pu noter lors de nos échanges la veille, c'est la peur du déplacement de ce trafic vers les quartiers plus résidentiels. Le procureur du roi réagit.
Je compare toujours ça à une taupe dans un jardin. La taupe fait des trous dans votre jardin, vous décidez de prendre des mesures, la taupe elle ne va pas mourir, elle ne va pas disparaître, elle va juste passer dans le jardin du voisin. Ils vont faire la même chose, on le sait, on se déplacera et on élargira les quartiers s'il faut.
Il souhaite rendre la ville aux citoyens et aux commerçants.
Comme je dis, moi ce que je souhaite vraiment c'est inverser le sentiment d'insécurité. Aujourd'hui c'est plus le citoyen qui doit avoir peur quand il va au centre-ville, c'est pas le commerçant qui doit se demander ce qui va encore lui arriver aujourd'hui, c'est le dealer qui doit se dire Liège c'est plus pour moi. Alors, je fais pas de promesses, je dis juste j'essaye. Au bout de 6 mois, on va tirer les conclusions et faire une analyse de la situation. J'espère que dans 6 mois, on se dira on en voit moins. Si dans 6 mois, on en voit toujours autant, on essaiera autre chose, tant pis.
Le message est donc clair, la ville ne doit plus servir de terrain de jeu pour ces trafics de stupéfiants.
Liège n'est plus un endroit où ils peuvent faire du bénéfice et jouer en toute impunité. En fait.
Autre problématique liée au réchauffement climatique, cette fois, les îlots de chaleur.
Oui Axel, et là aussi la ville de Liège réagit. On fait le point en plateau avec Abdeslam Ben Saïd. Bonjour Abdeslam.
Bonjour.
Et une première question pour vous. Vous qui vous êtes intéressé au projet Canopée et à la thématique des îlots de chaleur à Liège, concrètement, qu'est-ce qu'un îlot de chaleur ?
Oui, alors concrètement, un îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène qui fait que certains quartiers sont beaucoup plus chauds que d'autres, surtout en été. C'est lié aux matériaux qu'on retrouve en ville, le béton, l'asphalte, les façades, qui accumulent la chaleur toute la journée et la relâchent la nuit. Résultat, dans certains endroits, il fait non seulement plus chaud la journée, mais il est aussi beaucoup plus désagréable de respirer la nuit.
Et en faisant vos recherches, vous vous êtes rendu compte que tout le monde n'y était pas confronté de la même manière, c'est bien ça ?
Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant et surtout problématique. À Liège, on peut observer jusqu'à 4 degrés d'écart entre certains quartiers, selon les données du projet Smart Up de l'ICEP. Des zones comme Outremeuse ou Saint-Léonard sont particulièrement touchées. Il y a peu de végétation, beaucoup de surfaces bétonnées et une forte densité. À l'inverse, des quartiers plus verts comme Angleur restent plus frais. Derrière le phénomène climatique, il y a aussi une vraie inégalité environnementale qui touche souvent les habitants les plus vulnérables.
Et face à cette réalité, est-ce que la ville de Liège met quelque chose en place ?
Alors oui, la ville a lancé ce qu'on appelle le projet Canopée. L'objectif, c'est de planter 24 000 arbres d'ici 2032 pour rafraîchir la ville et améliorer la qualité de vie. Aujourd'hui, environ 9 000 arbres ont déjà été plantés avec une priorité donnée aux quartiers les plus exposés, comme Outremeuse. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la végétation comme outil pour lutter contre la chaleur.
Mais cette proposition, elle présente des limites.
Et ces limites, justement, se situent dans la plantation d'arbres. C'est utile, mais ça prend du temps. Un arbre met plusieurs années avant d'avoir un réel impact sur la température. Dans certains quartiers très urbanisés, il n'y a tout simplement pas assez d'espace pour en planter suffisamment.
Et du coup, est-ce que d'autres solutions peuvent être envisagées ?
Oui, d'autres solutions doivent être envisagées en parallèle. Désimperméabiliser les sols, créer des îlots de fraîcheur ou encore repenser les matériaux urbains. Parce qu'au fond, le réchauffement climatique à Liège ne fait pas qu'augmenter les températures, il met aussi en lumière une fracture environnementale entre les quartiers liégeois.
Merci Abdeslam.
Parlons culture maintenant. Hier soir, à la salle Gotteau de l'Université de Liège, pas moins de 19 remakes ont été projetés. Tous partageaient un thème peu commun, le chaos. Nicolas et Élise nous emmènent au cœur d'une soirée très particulière.
Une salle comble, des rires et une bonne dose de chaos. Ce soir, l'Université de Liège a vibré à la projection des remakes. De 20h à 22h dans la salle Gotteau, pas moins de 19 remakes ont été présentés. Tous réalisés par des étudiants en troisième année de communication. Une édition placée sous un thème commun, le chaos, que chaque groupe a interprété à sa manière. Scènes décalées, récits bouleversés ou encore univers complètement désorganisé. Nous sommes partis à la rencontre d'une étudiante.
Alors moi j'ai présenté le remake Get Out avec toute mon équipe, c'était génial, c'est un horreur psychologique. On a fait une séquence de 5 minutes et c'était vraiment vraiment intense comme tournage, surtout la post-prod, mais c'était une expérience de fou.
Mais la soirée ne s'est pas arrêtée là. La professeure Fanny Pleumers a préparé une petite surprise pour ses étudiants.
Cette année étant celle du chaos, je me suis dit qu'on pouvait faire une petite surprise un peu différente. Et donc j'ai attribué 3 prix spéciaux. Un qui s'appelle les professionnels, un autre qui s'appelle persévérance absolue et un dernier artisanat amoureux.
Une soirée marquée par l'audace et l'imagination qui confirme une seule chose. Le chaos entre les mains des étudiants devient une véritable source de créativité.
Au Théâtre de Liège, le festival Corps et Texte célèbre la rencontre entre le théâtre et la scène. Lecture, spectacle et échange y explorent la puissance des mots et mettent à l'honneur les voix contemporaines venues du Maroc et d'autres pays de la francophonie. Pour l'occasion, Élise Gaspard et Nicolas Renard ont interviewé Simon Van de Bulk, programmateur et coordinateur du spectacle, pour en savoir plus sur la programmation.
Entre conférences, lectures musicales et performances de slam, le festival Corps en Texte propose une programmation particulièrement riche et variée. Cette édition célèbre le Maroc. À cette occasion, le public pourra rencontrer la poétesse Rim Battal, l'écrivain Abdel Attaï et la conteuse Halima Hamdan. Nous avons rencontré Simon Van den Pulk, programmateur et coordinateur du spectacle, afin d'en apprendre davantage sur les choix qui ont guidé cette programmation.
C'est l'idée de parler du monde, en fait. Plus simplement, c'est l'idée de multiplier les voix. C'est voilà, d'avoir des formes toujours autour de la question de la littérature. C'est-à-dire que ce sont des écritures qui ne sont pas des écritures qu'on a l'habitude de retrouver au théâtre. Ce sont des écritures qui sont plus littéraires, plus poétiques, mais qui vont être performées de manière plus avancée, on va dire, plus construite que la simple lecture.
Une volonté d'ouverture que souligne Simon Van den Pulk, qui revient pour un dernier mot sur ce qui fait la richesse du festival, autant pour les amateurs de lecture que pour celles et ceux qui s'en sentent plus éloignés.
Si j'avais un lecteur assidu, je lui dirais qu'il peut venir parce qu'il peut découvrir la littérature autrement. Donc c'est assez chouette. Et pour les gens qui aiment moins la lecture, je dirais aussi justement que ça peut être une porte d'entrée pour découvrir le monde des livres.
Depuis mardi jusqu'à samedi, le Théâtre de Liège ouvre donc ses portes à tous.
À noter que le festival Corps et Texte se déroule donc jusqu'au 18 avril.
On passe au sport avec Arthur Piret. Bonjour Arthur.
Bonjour.
En cyclisme, une célèbre course régionale a été déplacée, Arthur Piret.
La Flèche Brabançonne, prévue ce mercredi, a été déplacée à demain. Aucun des grands favoris ne sera présent 5 jours après Paris-Roubaix. Tim Wellens, rétabli d'une fracture de la clavicule, et Romain Grégoire pourraient donc monter sur la première marche du podium.
En football, les quarts de finale de la Ligue des Champions se sont joués hier, n'est-ce pas ?
Oui, et le Bayern s'est imposé 4-3 contre le Real de Madrid. Les Munichois l'avaient emporté 1-2 au match aller. Les hommes de Vincent Kompany atteignent donc le carré final. Dans l'autre match, c'est Arsenal qui s'est qualifié contre le Sporting Portugal grâce à son avantage d'un but obtenu au match aller. Les affiches des demi-finales opposent le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich et l'Atlético Madrid à Arsenal.
Toujours en football, Arthur, un gros match se dessine en D1B.
On aura droit au derby entre le RFC Liège et l'AS Eupen pour le dernier match de la phase classique du championnat. Le matricule 4 n'a pas trop de pression avant cette rencontre. Sa place en play-off est assurée. Du côté d'Eupen, on n'a pas le choix. Il faut l'emporter et espérer une défaite du patron contre Franborin. Mais le RFC Liège ne compte pas offrir le match à l'AS Eupen. Comme l'explique Éric de Flandre, l'entraîneur adjoint du RFC Liège, au micro d'Alan Grison et d'Arthur Piret.
Le match qui arrive est important, mais ce seront surtout les suivants qui le seront. Donc on a eu un peu de temps pour essayer de faire en sorte que le plus grand nombre de joueurs soient disponibles pour la semaine prochaine, mais tout en préparant au mieux le match de demain, qui est un match toujours un peu particulier contre Eupen quand même.
Gaëtan Englebert, le coach du matricule 4, ne sous-estime pas les Pandas, mais pourrait ménager certains joueurs.
On aura dur de les battre, c'est sûr que c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui sait jouer au foot, ils sont venus gagner l'année dernière ici, ils nous ont battus en début de saison, donc ils ne nous ont pas fait de cadeau, on n'en fera pas non plus.
Le TA de l'AS Eupen, Bruno Pinheiro, le sait, ce derby sera crucial. Ces hommes n'auront pas le droit à l'erreur, comme il l'explique à Tom Gurd.
C'est comme si c'était une finale. On a vraiment besoin de gagner et malheureusement, on ne dépend pas que de nous, c'est ça le problème. Malheureusement, il faut gagner, il faut attendre que notre match ne finisse pas favorable pour nos adversaires. Donc j'ai ce petit regret, mais pour nous, c'est bien sûr une finale, il n'y a pas un autre résultat aujourd'hui. Il faudra gagner ou gagner.
L'entraîneur espère que la qualification de Liège pour les play-offs permettra un relâchement des adversaires.
Bien sûr, ils n'ont pas besoin de jouer à la limite. Si on voit bien les choses, même ils pourraient gérer des joueurs parce que dans 4 ou 5 jours après, il y a le prochain match. Mais je ne pense pas que ça va être comme ça. Je pense qu'ils vont essayer d'atteindre la 5e place. Je ne dirais pas vraiment que c'est un avantage, honnêtement. Je pense qu'ils vont essayer de gagner le match.
Oui, pas le choix pour Eupen, il faudra qu'ils donnent tout. Merci Arthur.
Merci.
Et aussi merci Axel. C'est déjà la fin de ce journal et merci à vous pour votre écoute et bonne soirée sur 48 FM. Thank you.